Monsieur le recteur, messieurs les, mesdames les ministres, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai appris l'automne dernier d'Inde, où je faisais des recherches sur les associations de défense de l'environnement, la décision du jury du prix Seligman. Si j'ai croisé à plusieurs reprises le nom de Françoise Seligman, je ne connaissais pas vraiment son engagement. Ce que j'en ai appris, son audace pendant la Seconde Guerre, la constance de son combat après la guerre contre le racisme, force l'admiration. Les comportements racistes, xénophobes, islamophobie, ont pris de nouveau, depuis quelques décennies, une acuité considérable. Comment les combattre? Il faut enregistrer les faits, sanctionner les actes de discrimination et les violences racistes. Il faut informer. Il y a une nécessaire pédagogie de l'antiracisme à faire, particulièrement à l'école. Il faut continuer à argumenter sans nier les différences, sans les figer. J'ai de toutes mes forces. Refuser de penser en termes de race, alors même que les sciences sociales en France, cédant à une pression venue d'outre-Atlantique, utilisent maintenant couramment le mot, certes, en lui donnant le plus souvent le sens d'une construction sociale. La race qu'elles évoquent n'est pas le concept biologique méprisant utilisé au XIXe siècle, mais c'est un concept qui ressurgit sans que l'on ait parallèlement, ici, véritablement engagé de débat sur ce que la variabilité de nos comportements doit aux héritages génétiques, au montage physiologique et ce qu'elle doit au milieu et au milieu de vie et à la culture. J'ai utilisé le mot culture ou origine culturelle, certes imprécis, mais c'est celui qu'emploient ou qu'ont employé les grands anthropologues qui incarnent la recherche la plus ouverte sur ou ont engagé la recherche la plus ouverte sur les mondes extra-européens. Je pense de Claude Lévi-Strauss à Luc de Heuch, de Margaret Mead à Ralph Linton. Il me paraît ce mot de culture, offrir un cadre utile pour comprendre la diversité intérieure et parfois les altérités intérieures de nos sociétés. Poursuivre ces débats avec sérieux est important. Pour combattre le racisme, il faut aussi rencontrer les visages des hommes et des femmes stigmatisés ou discriminés. Il s'agit de donner à voir la vie des immigrés dans sa complexité, dans ses espoirs et ses déceptions. C'est ce que la fiction, la littérature et le cinéma fait le plus souvent mieux que la sociologie. Depuis mes recherches à Grenoble sur le sentiment d'insécurité et la peur de l'autre, je n'ai cessé d'être fasciné par la diversité des formes de vie façonnées par l'histoire, que les migrations conduisent parfois à se mêler, souvent à se juxtaposer, et aussi à se confronter dans les espaces urbains. Mais les comportements racistes et xénophobes ne relèvent pas seulement des préjugés et d'un manque d'ouverture. Ils témoignent à l'évidence d'un mal-être généralisé en Europe. Ils traduisent la peur des gens modestes devant un monde globalisé, les frustrations d'une vie dans des pays où les inégalités de revenus se sont accrues par l'envolée des plus hauts, où le chômage des jeunes est massif et la croissance atone. Ils s'expriment chez les plus aisés, ceux qui peuvent s'affranchir des contacts avec l'autre par une mise à distance, souvent une morgue habillée de conformisme. En cela, la lutte contre le racisme et la xénophobie déborde largement la question de nos rapports aux immigrés du Sud ou de l'Est. Elle implique des changements plus amples. Il s'agit de faire société, c'est-à-dire de retrouver plus de justice et de cohésion sociale. Cela implique aussi que les institutions ne se contentent pas de fixer le cadre, de faire appliquer la règle, mais parviennent à incarner les valeurs qu'elles affichent. À Mantes-la-Jolie, au Mureau, dans les quartiers pauvres de Loire-Atlantique, j'ai rencontré des hommes et des femmes qui appartiennent à ces institutions, écoles, collèges, centres de santé, mairies de quartier, associations de médiation, et qui sont véritablement les acteurs de cette intégration ou de cette inclusion de notre diversité. J'entends, en cette occasion solennelle, leur rendre hommage. Je veux encore remercier publiquement les hommes et les femmes issus de l'immigration qui habitent ces quartiers, qui m'ont donné de leur temps en me confiant leur histoire. Je souhaite, comme cela figure dans la dédicace de En terre étrangère, rendre un hommage plus particulier à Kadi Sarr, une femme sérère venue de la petite côte au sud de Dakar et qui habitait le Val Fouré. Je veux enfin, naturellement, remercier les membres du jury du prix Seligman et François Veil, recteur de l'Académie de Paris, qui nous reçoit ici à la Sorbonne.